Yes, bon, mais l'applaudissement pour tout ce qui se passe à Nouvelle Vie. On est béni de voir ce que Dieu fait. Ce matin, vraiment heureux d'apporter la parole dans le cadre de cette série que j'aime beaucoup, cette série « Découvrir Jésus ». Et on est dans l'Évangile de Jean pendant tout l'été. On va regarder plusieurs textes, on va creuser, on va découvrir un peu mieux qui est ce Jésus qui est si extraordinaire. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble, on va être dans Jean 11, et on va regarder ensemble un texte puissant, un texte spectaculaire même. Et j'espère et je prie de tout mon cœur que dans les prochaines minutes, tu puisses être touché, fortifié dans ta foi, que tu puisses recevoir quelque chose de la part de Dieu ce matin, alors qu'on va regarder ensemble dans le texte où un homme qui s'appelle Lazare va ressusciter. Donc, ça va être assez spécial, vous allez voir. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Dis à ton voisin, « Si tu crois, tu peux le dire pour vrai, tu verras la gloire de Dieu ». Vous êtes vraiment bon quand c'est le temps de parler à son voisin, vous êtes les meilleurs. On regarde ensemble Jean 11 à partir du verset 1. On va lire tout le chapitre ce matin à travers la prédication. Et on va découvrir toutes sortes de clés, toutes sortes d'éléments qui vont parler à nos vies. Mais vous allez voir que le thème central du chapitre 11, et je dirais même peut-être de l'évangile de Jean, ici ce n'est pas nécessairement Lazare, mais le thème central c'est la foi. La foi que Jésus veut créer dans le cœur de ses enfants. On va voir que le thème de la foi revient continuellement à travers le chapitre 11. Dieu veut augmenter ta foi ce matin. Dieu veut fortifier ta foi ce matin. Est-ce que je peux entendre quelque chose? Un amen, ça va bien, c'est parfait. Verset 1. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui lui essuya ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Et à cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Dès les premiers versets, ça part fort. Dès les premiers versets, là, on sent qu'il va se passer quelque chose dans ce chapitre-là. Tout d'abord, j'attire votre attention sur le fait que Lazare, ainsi que ses deux sœurs, Marthe et Marie, étaient des gens que Jésus aimait. Il les aimait. On va voir même dans quelques versets plus loin, le texte va nous redire encore « Celui que tu aimes ». Jésus avait de l'affection pour cette famille-là. Et ce que ça nous dit sur Jésus, c'est quelque chose de très simple et de très beau. Jésus était rempli d'amour. C'était sa réputation. Il aimait cette famille-là. Et, parenthèse, en démarrant ce message ce matin, as-tu toi aussi cette même réputation? Es-tu réputé pour être quelqu'un qui aime les gens autour de toi? Quand on parle de toi, est-ce qu'on dit, « Ah, David Mondor, lui, il aime le monde. » Est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'on dit ce genre d'affaires-là de nous? Parce que Jésus, on disait ça de lui. Et moi, j'ai pris que chacun d'entre nous, qu'on soit des gens, que les gens qui nous entourent puissent dire, cette personne-là est pleine d'amour. Cette personne-là, elle aime les autres. Est-ce que je peux entendre un amen? OK, on continue. Ici, j'aimerais vous dire que Jésus n'est pas pris de court par nos défis. Hein, les sœurs de Joseph, les sœurs de Lazare envoient des messagers vers Jésus, puis pour lui dire, « Écoute, celui que tu aimes, Lazare, est malade. » Il n'y avait pas une petite grippette, OK? Il n'y avait pas une COVID de septième vague pas trop intense, OK? Il était malade gravement, au point qu'on envoie des messagers pour lui faire dire, « Écoute, il est malade. » Ce que ça voulait dire, c'est « Il est très malade. » Ce que ça voulait dire, c'est « Des bonnes chances qu'il meure. Dépêche-toi, viens. » nous rejoindre, parce que vous savez, Jésus guérissait les malades. Donc, ce n'est pas pour rien que les deux sœurs envoient les messagers. Et la réponse de Jésus est incroyable. Il dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, à travers la maladie, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Et c'est tellement extraordinaire. Jésus n'était pas pris de court. Il n'a pas fait « Oh non, il est malade! » Je ne savais pas. Jésus savait qu'il était malade. Jésus sait tout en passant. Il savait qu'il était malade et il savait déjà ce qu'il allait faire. Il n'était pas pris de court. Il savait qu'il allait se rendre là-bas et qu'il allait le ressusciter. Et j'aimerais te dire, peu importe le défi auquel tu fais face en ce moment dans ta vie, Jésus n'est pas pris de court. Jésus n'est pas déstabilisé par ta situation, par ta situation financière, par ta situation de santé, par ce qui se passe dans la vie de tes enfants, dans ton couple, ou peu importe, Jésus n'est pas pris de court. Si tu lui donnes ta vie, si ta vie lui appartient, tu peux placer ta foi et ta confiance en lui, peu importe ce que tu traverses, peu importe les preuves que tu traverses. Parce que Dieu, Jésus est le professionnel pour transformer une situation difficile, voire impossible, et la transformer pour sa gloire. C'est ce que Jésus fait. C'est ce qu'il est capable de faire dans ta vie aujourd'hui. Je veux te prêcher de l'espoir ce matin, si tu traverses un moment difficile. De faire confiance à Dieu, ce n'est pas d'être dans le déni ou de faire comme si rien n'était, mais c'est de faire confiance à celui qui peut intervenir, à celui qui peut agir, qui peut faire la différence. Il peut prendre des trucs qui étaient destinés à la poubelle et en faire quelque chose d'extraordinaire. Et vous savez, j'ai un jardin chez moi. J'aime ça en parler une fois de temps en temps. Et quand tu plantes des affaires, des fois, ben, c'est ça, il faut les sortir du jardin parce que ça monte en graines, comme on dit, ça fait des fleurs, puis là, ben, le légume n'est plus vraiment mangeable, et je m'en allais prendre des légumes pour aller les jeter, okay, pour m'en débarrasser, pour faire de la place, pour mettre d'autres choses, pour planter d'autres choses. Donc, il y avait des radis blancs, des épinards, puis de la roquette, puis c'était tout croche, OK? Puis je me suis dit, je vais prendre ça, c'est plus bon, je vais mettre ça au compost. Et là, j'ai une idée. Ah, mais il y a peut-être des trucs comestibles encore là-dedans. Même si le radis est plus bon, je vais peut-être prendre des trucs là-dedans. Donc, j'ai pris les feuilles de roquette, j'ai pris les fleurs de radis, c'était des fleurs de radis, et les quelques épinards qu'il y avait. On a fait une salade avec ça et c'était vraiment bon. C'était bien meilleur que la salade que tu manges habituellement. C'était plein de saveurs. Il y avait du piquant, il y avait du sucré, il y avait toutes sortes de saveurs. C'était délicieux. C'était destiné au compost, à la décomposition et à la poubelle. Mais ça a été un super repas pour tous les amateurs de salade dans ce lieu. C'était vraiment bon. Il n'y avait pas juste ça, il y avait d'autres choses aussi. Il y avait de la viande aussi, ne vous inquiétez pas. Mais Dieu prend ce qui semble sans espoir, ce qui semble destiné au compost, puis aux poubelles, puis il en fait quelque chose de beau. Ne perds pas espoir dans la situation que tu vis en ce moment. Dieu t'aime, Dieu te connaît, et si ta vie est entre ses mains, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Dieu veut bâtir ta foi. Et la foi, c'est qu'on fait confiance à Dieu, peu importe les épreuves qu'on traverse. Oui, on est shaké, oui, on est éprouvé, oui, des fois on pleure, on peut être inquiet, mais Dieu veut venir fortifier notre foi ce matin. C'est ce qu'il veut faire. Au verset 5, on continue notre texte, on est toujours dans Jean 11. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Encore une fois, on nous mentionne que Jésus les aimait. Quand il eut appris que Lazare était malade, il se précipita à toute allure, courant aussi vite que Usain Bolt pour aller rejoindre Lazare. Hein, c'est pas ça qui est écrit. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours. À l'endroit où il était. Jésus n'avait peut-être pas compris. C'était une urgence. Il était sur le point de mourir, il était très malade. La Bible nous dit que Jésus a attendu encore 2 jours avant de partir. Et plus tard dans mon message, j'ai une suggestion de réponse à ça, okay? Qui est pas mal bonne d'ailleurs. Restez jusqu'à la fin. Okay? Mais Jésus retarde son intervention. Jésus attend. Et une des choses qu'on apprend assez vite dans la vie chrétienne et même dans la vie, c'est que l'attente et les délais font partie de la vie chrétienne. Si tu es chrétien depuis plus que 2 secondes, tu sais que on attend parfois. Combien vous trouvez que des fois, là, vous priez pour quelque chose puis la réponse ne vient pas assez vite? Laisse-moi avoir des mains ici, là. Mais ça semble. Ça fait longtemps que je prie que le Seigneur fasse ceci ou cela, mais j'attends. C'est long! Pourquoi? Pourquoi le Seigneur permet? Pourquoi le Seigneur ne répond pas instantanément tout le temps? En fait, si Dieu le veut, il peut répondre instantanément et des fois, il le fait. Mais la plupart du temps, ça prend du temps. Dites « ouch ». La plupart du temps, ça prend du temps parce que Dieu n'est pas seulement intéressé à répondre à ta prière, mais Dieu est intéressé à ce qui se passe dans ton cœur en attendant que la prière soit répondue. Dieu est intéressé à forger ton caractère et à fortifier ta foi. C'est pour ça qu'il y a des délais. C'est pour ça que des fois, ça ne se passe pas comme on voudrait ou à la vitesse qu'on aimerait. C'est pour ça que des fois, on dirait que Jésus attend, que Jésus prolonge un peu l'attente. Et j'aimerais te dire, ne te laisse pas décourager par ces moments d'attente. Dieu veut et peut agir. Un texte qui va apparaître à l'écran dans Romains 5, verset 3. Il est là. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez, quand on vit de la détresse, quand on vit des moments difficiles, des moments d'attente, il y a un processus qui se passe en nous et notre caractère est formé. Ça produit de la persévérance. Et lorsque Dieu finit par répondre, à un moment donné, il y a la victoire dans l'épreuve. Et lorsqu'on vit ces victoires dans l'épreuve, l'espérance est construite dans notre cœur. Et c'est ça que Dieu veut faire dans nos vies. C'est ça que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Il faut apprendre à gérer les délais comme chrétien. Il faut devenir un peu plus patient. C'est les vacances en ce moment. Yeah! Woo! Les vacances! Peut-être que vous avez déjà fini vos vacances. Peut-être que vous êtes en vacances. Peut-être que vous allez en vacances bientôt. Peut-être que vous n'avez pas de vacances du tout. Je vous aime toute la gang quand même. Une des phrases qu'on entend beaucoup en voiture quand on s'en va en vacances, c'est les enfants qui nous disent... OK. Ce que j'ai entendu, c'était comme un mélange d'affaires. Moi, ce que j'allais dire, c'était, on arrive-tu bientôt? On arrive-tu bientôt? C'est long! Puis des fois, ils nous disent ça 5 minutes après qu'on est parti. Combien vous avez déjà vécu ça? Tu t'en vas, je sais pas, tu t'en vas full loin en vacances, c'est comme 7 heures de route. Puis tu pars, puis 5 minutes, tu tournes le coin, on arrive-tu bientôt? J'ai faim! « Come on! T'as 3 ans, gère-toi! Come on, man! 3 ans! » On arrive-tu bientôt? Et des fois, on est comme ça, comme chrétien. C'est long. On demande au Seigneur, « Seigneur, c'est long, on arrive-tu? Tu vas-tu répondre? C'est long avec ta geste, Seigneur! » Mais j'aimerais te dire que si c'est Jésus qui est au volant de ta vie, fais-y confiance. Parce que lui, il t'emmène à la bonne place. Il t'amène à la bonne destination. Peut-être qu'il va y avoir des détours imprévus que tu ne pensais pas vivre. Mais si c'est lui le maître de ta vie, s'il conduit, si c'est lui qui est au volant, fais-lui confiance. Achale-les pas pour dire, c'est quand, là? Non, non. Je te fais confiance, Seigneur. Tu conduis ma vie. Tu m'amènes à bon port. Je te fais confiance. Combien, comme moi, vous avez besoin de développer votre patience et votre persévérance. Lève tes deux mains comme ça, là, puis fais une rotation des mains. Ça n'a aucun symbole spirituel, c'est juste, on fait ça. Verset 11. Merci de rire de mes blagues. C'est bon pour mon estime personnelle. Verset 11. Après ces paroles, il leur dit... « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples disent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Ça me fait rire un peu, ce texte-là. Comme si Jésus allait faire foule de route pour aller réveiller quelqu'un qui dort. Il n'y avait pas catché ce que Jésus disait. « Seigneur, s'il dort, il va se réveiller, là. » Allô, les disciples, c'est pas ça que Jésus dit. Jésus dit, il est mort. Puis là, il va le clarifier au verset 14. Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, vous allez voir, Jésus veut bâtir la foi dans le cœur de ses disciples. Afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y nous aussi afin de mourir avec lui. J'aime beaucoup ce disciple-là. Ah, Thomas. Je regardais le texte, puis certains l'interprètent comme allons-y aussi avec Jésus. Si Jésus meurt, on va mourir avec Jésus. Donc ça, c'est un peu plus héroïque que ce que nous, on comprend quand on le lit. Mais le point ici, c'est que Jésus veut rendre notre foi inébranlable. Il dit une parole qui a l'air dure. Je me réjouis de ne pas avoir été là. Il est mort, je suis content de ne pas avoir été là. Trouvez-vous que ça fait dur un peu comme parole? Comme je suis assez content de ne pas avoir été là, je ne voulais pas le voir mourir. Non, ce n'est pas ça que Jésus dit. Ce que Jésus dit, c'est que je me réjouis de ne pas avoir été là afin que vous croyiez. Parce que les disciples là, qui sont avec Jésus, à un moment donné, Jésus allait mourir et ressusciter. Puis là, c'est eux qui allaient devoir démarrer l'Église. Puis ces hommes-là devaient avoir une foi inébranlable. C'est sur eux qu'allait reposer le démarrage de l'Église telle qu'on la connaît. C'était eux autres, des gens bien ordinaires comme moi, comme toi, bien simples. Mais Jésus avait le souci que la foi soit bâtie, que la foi soit bâtie en eux. Et Jésus a ce même souci pour toi ce matin. Il veut bâtir ta foi. Il veut faire de toi un croyant solide. Un croyant solide qui peut affronter n'importe quelle épreuve, n'importe quel défi, pas parce qu'il est meilleur que l'autre à côté, mais parce qu'il fait confiance en celui qui peut tout. En celui qui peut tout. Et aujourd'hui, ma prière, c'est que le Seigneur augmente notre foi à chacun d'entre nous. Moi, le premier. Quelques textes qui nous parlent d'une foi qui est inébranlable. Colossiens 1, 23. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi. C'est ce que Dieu veut faire avec toi ce matin. Il veut faire de toi un héros de la foi, quelqu'un d'inébranlable. 1 Pierre 5, à partir du verset 8. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Tu veux résister aux tentations, tu veux résister au diable, ça prend cette foi qui est inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et à vos sœurs dans le monde. La vie chrétienne comporte un élément de souffrance comme la vie normale. Tant que nous sommes sur cette terre, il y a des épreuves, il y a des moments de souffrance. Ce n'est pas anormal de souffrir. On voudrait ne pas souffrir, mais ce n'est pas anormal d'avoir des moments d'épreuves, de souffrance. C'est ce que la Bible nous enseigne. Le verset 10, « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Dieu veut te rétablir, t'affermir, te fortifier et te rendre inébranlable. C'est ce qu'il veut faire dans nos vies. C'est ce qu'il veut faire dans ma vie. Il veut me rendre inébranlable. Et ce matin, c'est vraiment ma prière pour nous, qu'il fortifie notre foi. Verset 17. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arriva, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Et on voit ici que Marthe court vers Jésus. Et là, il y a une phrase qui est aussi spéciale. Elle dit, « Si tu avais été là, elle est en deuil, elle est triste, son frère est mort. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Mais Seigneur, je sais que tu es grand, que tu peux quand même faire des miracles. » Puis des fois, on prie comme ça au Seigneur. Des fois, nos prières sont entremêlées. « Seigneur, si tu avais été là, il me semble que ça ne se serait pas passé comme ça, mais je crois quand même en toi. » Comment vous vivez des fois ce cœur humain partagé comme ça, comme Marthe, elle l'avait. Et là, Jésus dit à Marthe, « Je vais ressusciter ton frère. » Puis elle comprend dans un sens large. Elle dit, « Oui, à la fin des temps, tout le monde va ressusciter. Tu vas ressusciter aussi mon frère à ce moment-là. » Verset 25. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt, et toute personne qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Oh, wow! Ça, c'est pas mal le cœur de notre texte aujourd'hui. C'est pas mal le noyau de notre texte aujourd'hui. Je le relis pour que ça pénètre en toi, dans ton âme. Jésus dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. » Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus est la vie, il est la résurrection. Et lorsqu'on place notre foi en lui, nous ne mourrons jamais. Ce que ça veut dire, c'est qu'un jour ton corps va mourir, mais que ton esprit, ton âme, tu vas passer l'éternité avec Jésus. Ça, c'est l'assurance que nous avons en Jésus-Christ. Et j'aimerais, et vous, la plupart des croyants ici, vous connaissez cette vérité-là, vous connaissez cette réalité-là, mais j'aimerais juste vous rappeler à quel point c'est « wow », à quel point c'est formidable. Nous étions, par nos péchés, destinés à l'enfer, à une éternité loin de Dieu, à une éternité de souffrance séparée de Dieu. Mais parce que Jésus est venu, parce qu'il a été la vie, la résurrection, nous avons accès à la vie abondante et à la vie éternelle. La vie abondante sur cette terre et la vie éternelle pour l'éternité. Et ça, c'est « wow ». Ça, c'est extraordinaire. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de la mort. Parce que si tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu vas mourir, tu ne vas pas vraiment mourir. Tu vas vivre pour l'éternité avec lui. Pour moi, je trouve ça tellement extraordinaire, tellement puissant. J'écris une phrase qui va apparaître sur l'écran, vous allez voir, c'est un peu mélangeant. Je m'excuse à l'avance. Lazare est mort. Jésus l'a ressuscité. Mais plus tard, Lazare est remort. Mais il n'est pas vraiment remort. Car à cause de sa foi en Jésus, il n'est pas vraiment mort. Mais après que l'enveloppe de son corps s'est éteinte, pour la deuxième fois, il a été vivant et a accédé à la vie éternelle avec Jésus-Christ. Le plus grand, avoue que c'est pas pire, hein? Le plus grand miracle que Jésus a fait pour Lazare n'a pas été de le ressusciter la première fois, mais la deuxième fois. Pensez-y un instant. Le plus grand miracle, c'est pas de l'avoir fait revenir à la vie après 4 jours dans un tombeau, mais c'est lorsqu'il est mort plus tard, on imagine qu'il est mort à un moment donné. Sinon, est-ce qu'il est ici parmi nous? Donc, il est mort une deuxième fois. Cette fois-là, Jésus ne l'a pas ressuscité comme être humain, mais il est passé l'éternité. Il est présentement avec Jésus pour l'éternité. Il a eu accès à la vie éternelle. Et le plus grand miracle dans ce texte, c'est que Jésus est la vie, la résurrection. Plus grand que ressusciter Lazare, c'est que Jésus nous donne la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Et ça, c'est fort, et ça, c'est wow, et ça touche mon cœur. Et la phrase qu'on a lue de Jésus termine avec « Crois-tu cela? » Et il y a une clé là-dedans, c'est que cette vie éternelle avec Jésus, elle est disponible par la foi en Jésus. Vous savez, il y a quelques années, j'ai fait, on parle de voyage, puis de vacances, là, un peu un matin, On avait été sur la côte nord, mais tu sais, sur la côte nord, là, vraiment loin, sur la côte nord. On s'est rendu jusqu'à Natashquan. On est allé voir les îles Mingan. Combien vous connaissez les îles Mingan? Si on va voir s'il y a des gens qui connaissent leur Québec. Lève ta main. Oh, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent les îles Mingan. Donc, cet après-midi, votre devoir, aller sur Internet, taper îles Mingan. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment, vraiment magnifique comme endroit à aller en vacances. C'est loin, mais c'est très, très, très beau. Et il y a, il y a une photo qui va apparaître à l'écran, une photo que j'ai faite. Il y a des monolithes comme ça sur des îles. Et tu peux faire des excursions en bateau, puis aller voir, puis c'est des paysages quasi lunaires, ou comme si c'était sur une autre planète. Mais en plus, il y avait du brouillard, puis c'est vraiment magnifique. Ça vaut la peine d'y aller. Et la végétation est magnifique également. Puis il y a une colonie de macareux. Les macareux, c'est une sorte d'oiseau vraiment trop mignon. Et puis, on est allé voir ça avec les enfants. Puis c'était vraiment super, un très, très beau voyage. Et la façon que tu te rends sur une île, même si les îles sont superbes et que tu peux voir d'affaires, des affaires incroyables comme ça, il y en avait même un qui avait, je l'ai amené en photo, il ressemblait à la forme de Darth Vader, OK? Puis là, les îles, il a fait « Oh! » Et c'était vraiment spectaculaire. Pour se rendre là-bas, si tu veux y aller, même si tu veux vraiment y aller, ça prend quelque chose, ça prend un bateau. Si tu n'as pas de bateau, tu ne peux pas te rendre sur une île. À moins que tu sois un méga bon nageur. Là. Ça va assez loin, les îles. Ça prend un bateau. Et on a embarqué sur le bateau et c'est comme ça qu'on a pu se rendre à cette île qui est extraordinaire. Il y en a plusieurs, je pense qu'il y a 1000 îles là-bas. Et on s'est rendu à quelques îles comme ça. Et j'aimerais te dire, la vie éternelle, elle est là, elle est belle, elle est accessible, elle est formidable. Dieu l'a réservée pour toi. Mais si tu veux y avoir accès, tu as besoin du bateau de la foi. Tu as besoin de croire, de placer ta foi et ta confiance en Jésus. Jésus a dit, je suis la résurrection, la vie, etc. Il va dire, crois-tu cela? Et la clé est dans cette courte phrase, crois-tu cela ce matin? Est-ce que tu crois que Jésus est la résurrection et la vie? Et si tu veux accéder à la vie éternelle, tu dois placer ta foi en lui, ta confiance en lui. C'est comme ça que tu as accès à cette vie abondante, à cette vie éternelle que Jésus a pour toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Verset 28. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la virent se lever soudain et sortir et la suivirent en disant, « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Verset 32. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Même phrase que sa sœur. Elle dit la même chose que sa sœur. Des fois, on a des prières qui se ressemblent. On pense qu'on est seul, mais nos frères et nos sœurs pensent et prient les mêmes choses que nous parfois. Verset 33. « En la voyant pleurer et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondit-on, « Viens et tu verras. » Et là, il y a le plus court verset de la Bible, « Jésus pleura. » Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux, lui qui avait ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. Et comme cette parenthèse ici dans le texte, où on voit Jésus qui est bouleversé, indigné, Jésus qui pleure. Et moi, ça me touche de voir ça. Ça me touche de voir, j'ai lu différents commentateurs qui tentent d'expliquer un peu cette partie-là. Et ça me touche de voir cette humanité de Jésus, cette tristesse, cet amour que Jésus avait mêlé avec la déclaration d'avant qui venait de dire « Je suis la résurrection et la vie ». Et Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. C'est ce que nous parle, c'est ce que nous révèle l'Évangile de Jean dès le chapitre 1, comme on a vu il y a deux semaines de cela. Et ça me touche de voir ce Jésus qui est proche de ses émotions, qui est proche, et certains diront, il pleurait parce qu'il voyait la mort sur l'humanité entière, etc. Bon, je ne sais pas, moi je pense qu'il était juste triste de la situation qu'il vivait en ce moment, qu'il était compatissant avec les gens qui pleuraient à ce moment-là. Et on arrive au verset suivant, et ça s'améliore tout le temps, ce texte-là, c'est incroyable. Il arrive près de la grotte. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. » Dis à ton voisin, « Il sent déjà. » Je trouve cette phrase tellement savoureuse. « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, encore la foi, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. J'arrête ici un instant. Il sent déjà. Pourquoi Jésus a attendu 2 jours avant de partir? Moi, je pense qu'il voulait qu'il sente déjà. Moi, je pense qu'il voulait qu'il soit vraiment mort, là, tu sais. Qu'il sente déjà, qu'il soit déjà en début de décomposition. Je pense que c'est ça que Jésus voulait. Jésus se spécialise à faire des miracles incroyables, à agir dans des circonstances qui sentent déjà. Combien ici vous avez traversé, ou vous traversez en ce moment une situation, puis tu vois très peu d'espoir. Tu ne vois pas comment ça pourrait revirer de bord. Tu ne vois pas comment cette personne-là pourrait donner sa vie à Jésus. Ça semble impossible. Ça sent déjà. D'autres ici, c'est ton enfant qui est loin de Dieu, puis tu pries pour lui depuis longtemps, puis tu ne vois pas de réponse. On dirait que plus tu pries, pire ça devient. C'est comme s'il n'y a plus d'espoir. D'autres, c'est une maladie qui perdure, peu importe, ton couple qui ne va pas bien, puis ça sent déjà, il n'y a pas d'espoir, tu ne comprends pas, ça ne peut pas être restauré, ça peut pas être, il ne peut pas avoir de vie là-dedans. Mais Jésus a redonné vie à un homme qui était déjà en train de se décomposer, puis qui puait le mort. Êtes-vous là ce matin? Il n'y a pas de situation trop dure que Jésus ne serait pas capable d'intervenir. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de puissance. C'est un Dieu de gloire. Et même si tu penses que ta situation sent déjà et qu'il n'y a rien à faire avec ça, j'aimerais aujourd'hui que la foi soit bâtie dans ton cœur. Jésus peut encore le faire. Jésus peut encore le faire. Est-ce que je peux entendre un amen? Jésus peut encore le faire. On peut applaudir le Seigneur. J'achève très bientôt mon message. On continue au verset 41. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Encore la foi. Presque à chaque verset, on parle de foi. « Afin qu'ils croient. » Et ici, il y a une parenthèse que je voudrais faire. Jésus commence en prière en disant, « Je te remercie de ce que tu m'as écouté. » Et pour moi, c'est une prière de foi. On a des gros défis, problèmes, difficultés, mais la prière de foi, c'est la prière qui commence avec, « Je te remercie. » J'ai des problèmes, j'ai des difficultés, ça ne marche pas comme je voudrais, mais je commence avec, « Je te remercie. » Je te remercie pour ce que tu vas faire. Je te remercie que tu m'entends, que tu m'écoutes, que tu m'aimes. Avant même que tu répondes à ma prière, je te remercie. Grandir dans la foi, c'est de prier avec foi. Et prier avec foi, c'est de dire merci avant même que tu aies reçu ce que tu demandais. Ça, c'est la foi. C'est, Seigneur, je te remercie. J'ai une situation difficile en ce moment dans mes finances. Je te remercie que tu as des idées pour moi, que tu sois des solutions, que tu sois une opportunité, que tu sois un emploi, que tu sois quelque chose pour moi. Seigneur, je te remercie. avant même que Dieu réponde, avant même que Dieu guérisse, avant même que Dieu agisse dans nos vies, la foi dit « Je te remercie ». Combien vous voulez prier comme ça? Vous voulez prier au lieu de prier avec désespoir, puis des fois c'est correct de le faire aussi, mais de dire « Seigneur, je te remercie. Ma vie est entre tes mains, tu es au contrôle de ma vie, et avant même que tu me répondes, je te dis merci, Seigneur. » Et là, on arrive au verset 43. « Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes, et le visage enrobé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Dites avec moi, « Wow! » Aïe, 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 c'est quelque chose. Il tasse la pierre. Il dit, « Lazare, sors! » Puis là, j'aurais peut-être voulu faire un sketch avec ça un matin, mais je ne le ferai pas, parce que pauvre Josué, j'ai encore utilisé pour un sketch avec les bandelettes et tout ça. Mais essayez d'imaginer la scène. Hein? Le gars, il est mort, il est en décomposition, il est déjà avec Dieu, mais là, paf, il retourne dans son corps. OK, je ne sais pas trop... En tout cas, et là, je ne sais pas s'il était comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et là, il est attaché avec des bandelettes, puis son visage, puis tout ça. Puis, il sent plus. Jésus l'a ressuscité. Il est restauré, son corps est restauré. C'est wow! C'est wow! Et là, Jésus dit, enlevez-y les bandelettes, là. Hein, ça va faire l'Halloween. Enlevez-y tout ça. Il faut que ce gars-là puisse respirer. Et là, Lazare est vivant. Lazare vit. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Ça me touche de voir ce que Jésus a fait. Et j'aime la façon qu'il a déclaré. Il n'a pas dit, « S'il te plaît, cher ami que j'aime, sors donc de ce tombeau. » Il dit, « Lazare, sors. » Avec conviction, une déclaration de foi. On veut prier la foi, mais on veut aussi avoir des déclarations de foi. La foi, c'est un langage. La foi, c'est une façon de parler. Ce n'est pas d'être dans le déni, c'est de connaître Dieu, de lui faire confiance. Et je vous invite à prier avec foi et à parler avec foi. La foi, par nature, est positive. La foi parle avec vie. Elle donne la vie, elle donne l'espoir. Et moi, j'ai pris comme chrétien qu'on puisse parler avec foi, qu'on puisse déclarer les promesses de Dieu, s'attacher à ses promesses. Je vous lis rapidement quelques promesses de Dieu que j'ai écrites comme ça dans mon message, Philippiens 4, 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » 1 Timothée 2, 4. « Lui qui désire... que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Jean 16, 24. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » 1 Jean 1, 9. « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Matthieu 28, 20. « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » J'ai lu juste quelques versets, il y en a plein d'autres. Déclarons la foi, prions avec foi, parlons avec foi, faisons confiance à Dieu. Est-ce qu'on peut être une église, un peuple qui fait confiance à Dieu? On fait confiance à Dieu pour l'avenir. On n'a pas peur de l'avenir, même si c'est incertain, même si c'est complètement chamboulé. On n'est pas surpris. La Bible, Jésus nous parlait que ça allait être comme ça dans les temps de la fin. On fait confiance à Dieu. On marche avec foi. On avance avec foi. On parle avec foi. On inspire les gens autour de nous avec de l'amour, de la grâce. Parce que Dieu est présent. Dieu est là. Il prend soin de nous. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. On va terminer en prière dans un instant. Dernièrement ce matin, verset 45, « Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. » Tout le long, Jésus veut bâtir la foi. Et là, alors qu'il ressuscite Lazare, beaucoup de gens qui sont réunis placent leur foi en Jésus. C'est ce que Jésus voulait. C'est ce que Jésus veut faire encore ce matin. Regardez bien le verset 46 qui est très étonnant. « Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Il y a des gens qui, eux, voient le miracle, pour lui de dire, « Wow, Jésus, t'as ressuscité un mort, t'es donc ben wow! » Ils vont stouler Jésus aux pharisiens pour manigancer, pour qu'on le tue. C'est ça qui va y arriver à Jésus. Et moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas de la dureté de cœur. Imaginez, tu vois un mort ressuscité. Come on! Il sentait déjà! Il est ressuscité! Puis ta façon de réagir, c'est de vouloir tuer ce Jésus puis de vouloir l'arrêter. Quelle dureté de cœur! J'aimerais vous dire que cette dureté de cœur existe encore dans ce monde. Et j'ai prié que nous ne soyons jamais avec un cœur dur. Que le Seigneur préserve notre cœur de toute incrédulité. Que le Seigneur préserve notre cœur de ne pas célébrer les miracles, de ne pas célébrer son action. Qu'on ne puisse pas devenir endurci. Lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, on veut célébrer. On ne veut pas dire, « Ah ouais, mais es-tu vraiment sauvé? » Non. On veut célébrer. On va avoir ce cœur pur, ce cœur de foi, ce cœur d'enfant. Terminant ce matin, ma prière, c'est, « Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi. » Tout le chapitre 11 de Jean, c'était dans le but d'augmenter la foi de ses disciples, de fortifier, de bâtir la foi. Et j'aimerais vous dire que même la conclusion du livre de Jean, c'était pour bâtir la foi. Tout ce livre-là a été écrit pour cela. On lit en Jean 20, verset 30. « Jésus a accompli, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jean est en train de dire de façon très claire et explicite, voici pourquoi j'écris cet évangile. Voici pourquoi je vous parle des différents signes, des différents miracles que Jésus a fait. C'est afin que vous ayez la foi, que vous croyez en Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie. Aujourd'hui, je te pose la question, est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu as placé ta foi en Jésus? Dans un instant, tu vas pouvoir répondre à une invitation, mais juste avant, une récapitulation rapide de ce qu'on a vu ce matin. On a vu que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus n'est pas pris de court avec nos défis. Que parfois, Jésus retarde son intervention, qu'il faut apprendre à gérer les délais. Que Jésus veut rendre ta foi inébranlable. Qu'il est celui qui veut t'offrir la vie éternelle. C'est celui dont la compassion humaine rencontre la puissance divine. On a vu également que Jésus peut donner vie à des situations impossibles, des situations qui sentent déjà. On a vu également que la foi, c'est de commencer par remercier. Remercier Dieu. La foi, c'est de déclarer, c'est de parler avec foi. Et nous avons vu également quelques promesses à déclarer avec foi. Et en terminant ce matin, pendant que tout le monde ferme son cellulaire, bien sûr, en terminant ce matin, combien vous avez envie de dire, « Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi, Seigneur. Transforme-moi. Change-moi. Change ma façon de parler. Change ma façon de prier. Change ma façon de me comporter. Seigneur, si le Seigneur dépose de la foi dans ton cœur, il va en même temps enlever l'inquiétude de ton cœur. En même temps qu'il va déposer la foi, il va enlever l'angoisse. En même temps qu'il dépose la foi et la confiance, il va te transformer, il va te fortifier, il va te rendre inébranlable. Et ça, c'est mon désir ce matin. Et deux appels ce matin, deux invitations. Ma première invitation serait pour des gens dans ce lieu. Tu n'as pas encore placé ta foi en Jésus. Tu es ici ce matin peut-être pour une première fois ou pour ça fait quelques fois que tu viens ou peu importe, des années, mais tu n'as pas encore placé ta foi en Jésus. Tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, dans ton cœur. tu n'as pas encore dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, tu n'as pas encore reçu ce Jésus dans ta vie, si c'est toi ce matin, alors qu'on ferme les yeux en terminant ce message, qu'on penche la tête en terminant ce message, si c'est toi ce matin, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu aimerais placer ta foi en lui ce matin, je t'aimerais t'inviter à lever ta main et à dire, moi, je veux placer ma foi en Jésus ce matin. Je lui donne mon cœur, je lui donne ma vie, je m'abandonne à lui. Lève ta main bien haut, là où tu es à ta place. Je vais te conduire dans une prière dans un instant. Plusieurs personnes qui lèvent la main dans cette salle, je vais prier avec toi dans un instant. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de découvrir, rencontrer, connaître Jésus. Il est vivant, il est ici dans ce lieu, il veut te donner la vie abondante, la vie éternelle. Dans un instant, je vais prier avec toi. Mon deuxième appel serait pour des gens, celui qui aimerait dire, « Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, change-moi. Change la façon que je parle, la façon que je prie, la façon que je me comporte. Seigneur, viens enlever ces stress, ces inquiétudes. Viens enlever cette angoisse qui parfois me paralyse au complet. Augmente ma foi, ma confiance en toi, Jésus. » Si c'est ton désir ce matin, tu veux grandir dans la foi, tu veux devenir inébranlable dans la foi, lève tes deux mains vers Jésus et dis-lui, « Seigneur, augmente ma foi, fortifie-moi, rends-moi inébranlable, aide-moi à affronter mes défis, mes douleurs, la maladie, les problèmes auxquels j'ai à faire face dans ce monde. Aide-moi, Seigneur, à affronter les défis, Seigneur, augmente ma foi. » Je veux te faire confiance. Je veux t'honorer par la façon que je parle. Je veux t'honorer par la façon que je prie. Seigneur, je veux cette foi inébranlable que tu as déposée dans le cœur de tes disciples. Je la veux moi aussi. Est-ce qu'on va faire ensemble en terminant? On va tous se lever, si vous voulez bien. On va tous se lever. On va chanter un chant. On va s'approcher de Dieu. On va prier. Mais juste avant qu'on chante, juste avant qu'on aille plus loin dans cette réunion, j'aimerais prier pour les personnes qui ont décidé de recevoir Jésus ce matin, qui ont décidé de placer leur foi en Jésus. Je veux te féliciter pour ton choix, pour ta décision, puis j'aimerais prier pour toi ce matin. J'aimerais, puis toute l'Église aussi, on veut prier pour toi, afin que tu puisses marcher dans cette vie avec Dieu, dans cette vie formidable que Dieu a pour toi. On peut tous fermer les yeux ensemble. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui, ce matin, a décidé de te recevoir, de t'accepter dans sa vie. Seigneur, je te prie pour eux maintenant. Je te prie que cette date, que cette journée soit une journée pivot dans leur vie. Qu'ils puissent se rappeler de ce moment pour toute leur vie comme le moment où ils ont placé leur foi en Jésus. Seigneur, je te prie pour eux. Je te prie, Seigneur, alors que tu les aimes, que tu es mort pour leurs péchés, Seigneur, je prie, Seigneur, qu'ils puissent être pardonnés de leurs péchés. Et qu'ils puissent, mon Dieu, ce matin, savoir qu'ils sont tes enfants et qu'ils ont accès à la vie éternelle. Seigneur, mets ta bonne main sur eux. Touche-les. Approche-toi d'eux maintenant dans la simplicité de ce moment, Jésus. Et Seigneur, tous ensemble ce matin, en terminant, on veut chanter ton nom et on veut te prier aussi, augmente ma foi. Augmente ma foi. Je veux t'honorer par ma foi. Chantons ensemble ce chant.